d'introduire cette séance, qui est donc l'avant-dernière séance du cycle Histoire du cinéma sous influence documentaire, confiée à Jean-Louis Comolli. Et dans cette séance, vous verrez des films plus récents, puisque jusqu'à présent, on a commencé avec les films Lumière, on s'est arrêté en 1970 la dernière fois. Donc ces deux films de à peu près 40 minutes, le premier de Arnaud Despalières, Disneyland, mon vieux pays natal, et le second de Claudio Pacienza, Scène de chasse au sanglier, qui sont deux films très, vous verrez, d'une écriture très originale. Ces films que dans les bibliothèques on n'arrive pas à classer et qu'on met sous la catégorie film essai, mais donc Jean-Louis va vous expliquer pourquoi il les a rapprochés dans cette séance et ce qu'il est, enfin, quel est leur point commun. Voilà, donc je passe la parole à Jean-Louis.
Merci Catherine, merci, bonsoir. L'idée c'était d'arriver aujourd'hui. On est parti de 1895 et bon, voilà, par une suite d'étapes ou de sauts dans le temps et dans le cinéma, on arrive à 2000 avec le film d'Arnaud Despalières et à 2007 avec le film de Pacienza. Donc on se rapproche de nous, c'est-à-dire du moment présent où nous sommes. Pourquoi montrer ces deux films? Bon, d'abord parce que je les aime beaucoup, c'est une première raison. Et puis ensuite parce que, bien qu'ils soient évidemment très différents l'un de l'autre et qu'il serait vain de tenter d'établir des correspondances ou des points communs. Néanmoins, tous deux affrontent une question centrale aujourd'hui qu'on pourrait, de manière synthétique et rapide, schématique presque, dire qu'en est-il des images et des sons dans le moment présent? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Et quel est le rapport ou l'absence de rapport que les images et les sons, c'est-à-dire les représentations, et notamment les représentations audiovisuelles, celles qui passent par la combinaison de sons et d'images, quel rapport entretiennent-elles avec ce qu'on appelle la réalité, voire le réel, d'un mot beaucoup plus imposant et presque effrayant? Alors, vous allez voir deux exemples différents, je le répète, mais où les puissances du cinéma sont à l'œuvre pour à la fois mettre au défi ce qu'on pourrait appeler le système des représentations, mais le système des représentations non pas pensé de l'intérieur d'une histoire du cinéma, mais pensé plutôt comme ce qui aujourd'hui nous assaille de tous côtés, puisque nous vivons, vous le savez sans doute, nous vivons au milieu des spectacles, n'est-ce pas? Et donc la question de la mise en spectacle et de la mise en crise des spectacles est une question évidemment centrale. On ne peut plus faire des films aujourd'hui comme les frères Lumière, Louis Lumière les faisait, parce que le cinéma a pris une importance considérable, et au-delà du cinéma, tous les régimes possibles et imaginables de production d'images et de sons qui ont envahi littéralement le monde. Alors, le cinéma remplace le monde, l'audiovisuel se substitue au monde, c'est un fait courant dont on a l'expérience jour après jour. Et la question se pose de savoir comment faire encore des films dans un monde qui est saturé, hein, d'images et de sons. Alors, à cette question, Arnaud Despalières répond d'une manière radicale, que je vais vous laisser découvrir, bien sûr. Je vous propose une sorte de plan de séance. On va d'abord voir le film de Despalières que je vous proposerai ensuite quelques pistes pour traverser ce film, qui est complexe. Et puis ensuite, nous verrons le film de Claudio Pacienza et de même, je tenterai d'élaborer quelque chose à propos de ce film. Voilà. Donc en fait, c'est une séance un peu bizarre et un peu longue, puisque les deux films qui font 45 minutes, plus ou moins chacun, et plus mes commentaires que je vais essayer de condenser au maximum, tout ça va nous mener peut-être un peu plus tard que d'habitude. En tout cas, bonne projection pour Disneyland, mon vieux pays natal. Alors voilà. Donc c'est un exercice assez surprenant et qui mérite attention que d'aller visiter Disneyland et de ramener ce film. Voilà, ça ne va pas de soi, hein. Quelque chose s'est passé qu'il faut interroger. Bon, moi je ne suis jamais allé à Disneyland, mais comme peut-être beaucoup d'entre vous, j'ai vu quelques reportages ou numéros de magazines télévisés. Et il y a évidemment quelque chose qui nous frappe immédiatement, c'est que c'est un autre Disneyland que Despalières a inventé, et pourtant c'est aussi le vrai Disneyland. Alors voilà la question qui est posée. Bon, comment le cinéma s'empare-t-il du spectacle? Disneyland serait d'une certaine manière le temple du spectacle, un des temples du spectacle aujourd'hui, visité, comme le dit le film, par des milliers de visiteurs chaque jour et des millions au cours de l'année. Donc un temple du spectacle, et quand je dis un temple du spectacle, évidemment, il faut entendre spectacle dans toutes ses dimensions, non seulement ce qui en met plein les yeux, mais certainement aussi ce qui en met plein les oreilles, et de toute manière aussi certainement ce qui invite chacun de ceux qui sont là, parents essentiellement, qui ont accès au porte-monnaie, à dépenser quelque chose. Donc dans la notion de spectacle, on ne peut pas écarter la dimension publicitaire, bien sûr, la réclame, l'appel à l'acte d'achat, au passage à l'acte d'achat, et on ne peut pas écarter donc par conséquent la marchandise. Disneyland serait d'une certaine manière le temple du spectacle, incluant évidemment la marchandise. Alors, c'est quelque chose de puissant, sans doute, qui se trouve là, condensé dans Disneyland, quelque chose qui représente un peu, une des pointes avancées de notre société dite de consommation, mais qui est également une société spectaculaire. Le travail de Despalières est très simple. Vous avez noté, bien sûr, que la question de la disparition traverse tout le film. Toutes les histoires qui nous sont racontées mettent en place la mort et la disparition, ou la disparition et la mort. Bon, cette jeune femme qui saute du bateau, ce cancer échangé entre la mante et l'amant. On est dans quelque chose qui probablement n'apparaît pas à Disneyland. Qu'est-ce qui n'apparaît pas à Disneyland? Je suppose, enfin j'imagine, je ne crois pas me tromper en affirmant que c'est la mort qui n'apparaît pas à Disneyland. Le spectacle, et notamment le spectacle marchand, est aussi là, d'une certaine manière, pour refouler l'angoisse ou la certitude ou la fatalité de la mort. Donc, un premier geste narratif, conçu et mis en œuvre par Despalières, et de ramener la mort dans le spectacle. Déjà, ce geste, évidemment, a beaucoup de sens, a beaucoup de force, et, d'une certaine manière, change la donne. Mais ça n'est pas tout. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce film, c'est que la question de la disparition n'est pas simplement rhétorique, au sens où il ne s'agit pas que de raconter des histoires qui mettent en place des morts ou des disparitions. C'est ce que le film fait, bien sûr, vous les avez entendus. Mais cette question de la disparition, elle est organique aussi, c'est-à-dire qu'elle affecte ou elle passe par ce qu'on pourrait appeler l'écriture du film. Voilà. Alors comment ? Vous avez noté que au début, on a ce RER qui va conduire à Disneyland et qui passe dans une gare de banlieue, sans doute, sur le chemin de Disneyland. Et vous avez noté que ce RER fait du bruit, n'est-ce pas ? Il y a le vacarme incroyable d'un convoi lancé à toute vitesse qui fait même trembler la caméra qui est en train de le filmer. Et les ondes sonores, nous les entendons bien sûr et nous les recevons avec toute leur violence. Tout de suite après, vous avez également noté qu'on voit une série un train de marchandises avec une série de wagons, n'est-ce pas ? Et le son est encore là. Le son direct, le son du monde réel est encore là. Et puis, au milieu de ce défilé de wagons, le son disparaît. Voilà. Disparition du son. Alors, disparition du son qui va concerner tout le reste du film. Non pas que ce film ne soit pas sonore, il l'est évidemment beaucoup, mais ça n'est plus le son de Disneyland, c'est un autre son qui vient à la place de celui de Disneyland. Le son direct, alors pour ceux qui ont suivi quelques-unes de nos rencontres, vous avez noté à quel point cette question du son, j'ai tenté de la travailler, et les films que je vous ai montrés la travaillaient aussi, et évidemment avec l'apparition, la mise en place technique et artistique de ce qu'on a appelé le son direct, c'est-à-dire la possibilité d'enregistrer en même temps que l'image le son correspondant à cette image, ce que je le redis, les petites caméras comme celles dont s'est servi Arnaud Despalières font spontanément, sans qu'on le leur demande. Hein, voilà, le son et l'image sont enregistrés ensemble et on a toujours de l'image avec du son. En somme, voilà, il faudrait vraiment faire un geste qui consisterait à couper le micro, à l'arracher pour ne plus avoir de son. Le son et l'image vont ensemble aujourd'hui. Nous sommes dans l'époque du synchronisme, où son et image marchent de pair. Alors voilà donc le premier geste artistique fort, déterminant, décisif, c'est de couper le son de Disneyland, tout simplement. Si on coupe le son de Disneyland, on coupe une partie du spectacle, puisque, évidemment, le monde sonore de Disneyland est extrêmement agité, extrêmement rempli. Non seulement disparaissent les musiques de Disneyland, non seulement disparaissent les appels aux parleurs, les appels à voir tel ou tel spectacle, à acheter telle ou telle chose, mais disparaissent aussi tout simplement les bruits de la foule, hein, et peut-être même les cris des enfants, alors que ce soit des cris de joie ou des cris d'effroi, de toute façon, ça disparaît de la bande-son. Et c'est remplacé, hein, bien sûr, d'une part par les voix narratrices, hein, qui sont d'ailleurs, je le dis en passant, même si on ne s'en aperçoit pas forcément, toutes jouées, dites par Arnaud Despalières, et modifiées ou transformées par des trucages sonores. Un traitement des voix, disons. Alors, ces voix narratrices occupent évidemment une grande partie de la bande-son, et puis le reste de la bande-son, le reste, si j'ose dire, qui est quand même très important, c'est cette musique de Martin Wheeler, qui est évidemment très envoûtante, très belle, et qui constitue un univers sonore qui n'est pas celui de Disneyland, qui est celui de ce film. Voilà, donc une opération qui consiste à faire disparaître un certain degré de réalité de Disneyland et à lui substituer une autre réalité qui est celle d'une musique de film et de voix dans un film. Alors cette opération qui est à la fois très simple d'une certaine manière, bien que difficile à réaliser, très simple à penser, très simple à concevoir, nous comprenons bien qu'elle détruit d'une certaine manière le spectacle Disneyland et que elle porte atteinte à ce qu'on pourrait appeler la puissance intrinsèque de ce temple du spectacle marchand, qui là est en partie annulé par la suppression du son. Alors, disparition, motif récurrent des récits, disparition de ces enfants qui ont suivi le joueur de flûte et qui peut-être se trouvent aujourd'hui dans une caverne à attendre des jours meilleurs ou à goûter des joies ineffables, disparition des visiteurs, nous dit Arnaud Despalières, les récits successifs nous racontent des disparitions, tout ça est assez clair je crois, et puis ce qui disparaît c'est le son direct. Ce qui disparaît, c'est le son de Disneyland. Et donc, une opération se met en place qu'il est très simple de définir, déréalisation de Disneyland, c'est-à-dire la réalité sensible de ce temple de la marchandise spectaculaire est atteinte, abîmée et en partie détruite par la disparition de son monde sonore, de sa signification, de son expression sonore, de sa dimension sonore. Bien. Ça n'est pas la seule disparition qui affecte l'écriture de ce film, puisque vous l'avez également noté, à de nombreuses reprises, nous avons affaire à ce qu'on pourrait appeler une prise de vue discontinue, c'est-à-dire des sautes d'images, des sautes. Alors il y a évidemment beaucoup de plans courts qui raccordent et donc qui font sentir des sautes de raccords, mais c'est pas à ça que je pense. Je pense plutôt à cette image saccadée, ces moments de saccade à l'intérieur de la bande image qui nous disent quoi ? Qui nous disent que du côté de la bande image, il y a des images qui ont disparu elles aussi. Parce que évidemment, quand on règle l'obturateur de la caméra pour qu'il ne marche plus à 50 images secondes, c'est-à-dire à quelque chose qui ressemble, qui donne au niveau de ce qui est filmé, de l'enregistrement, la sensation d'un continu, d'un flux continu. Alors évidemment, si on règle l'obturateur sur une autre vitesse d'obturation, on obtient une sorte de ralenti, mais un ralenti qui n'est pas tout à fait un ralenti, puisque ce sont des petits fragments d'images successives qui marquent la disparition de bouts d'images. Alors cette question est assez troublante, parce que le spectacle qui nous est montré, la dimension visible et ce film en montre beaucoup, de Disneyland est aussi affecté hein, par ce trouage, on pourrait dire, cette succession de lacunes qui viennent discontinuer, si j'ose dire, l'image, et donc nous confronter à une représentation qui n'est plus fluide, qui ne donne plus la sensation de continu. Si le cinéma, dans ses premiers moments, dans sa naissance, si le cinéma a convaincu puissamment les premiers spectateurs de sa force, c'est précisément parce que l'illusion de continuité, hein, d'un mouvement continu était produite par le film. La vitesse, les 18 images secondes ou les 16 images secondes utilisées par les frères Lumière donnaient cette sensation de continuité. Quelqu'un qui marchait sans saccade, sans saut, sans heurts, sans coupe. Hein, voilà, comme je marche devant vous, vous voyez quelque chose qui ressemble à un flux continu de mouvement. Voilà, le mouvement donne la sensation d'être continue. C'est ça qui est abîmé par cette manière de filmer que Despalières met en œuvre. Et donc, je trouve, du côté de l'image comme du côté de la bande-son, un principe de suppression d'une partie des éléments. Alors, du côté de la bande-son, c'est évidemment l'ensemble de l'univers sonore de Disneyland qui disparaît. Et bien, du côté de la bande-image, des fragments aussi de cet univers visible, de cette fête du visuel, si j'ose dire, disparaissent aussi. Voilà. Et donc, j'attire votre attention sur ce fait que le cinéma, quand il est travaillé fortement, avec souci et obsession, intègre à sa texture, à son écriture, des éléments de sens. Le sens ne vient pas seulement des énoncés qui sont ici et là donnés par le texte, mais il vient aussi de la manière dont l'écriture même, c'est-à-dire la bande d'image et la bande son, travaillent ce sens. Voilà. Et donc disparition des deux côtés, du côté des énoncés et du côté de l'écriture ou de la forme, si vous préférez. Et voilà, là quelque chose nous donne à voir ce qu'on pourrait dire être la puissance du cinéma. Alors, je vais partir de ça pour aller un tout petit peu plus loin. Je disais, ramener l'idée de la mort ou de la disparition dans l'univers de Disneyland, ça veut dire quoi? Ça veut dire raccorder l'enfance et la mort. Cette opération est une opération majeure. Nous vivons dans une société, dans une culture où l'enfance et la mort sont disjoints, comme si c'était deux questions qui n'avaient pas à se connecter. Nous tous, probablement, avons-nous perdu de vue, avons-nous oublié ce que la mort a pu être pour nous quand nous étions enfants. Et certainement, grandir, c'est accepter, d'une manière ou d'une autre, l'inéluctabilité de la mort. Peut-être que quand on est enfant, on a un autre rapport à la mort que celui que nous avons en tant qu'être raisonnable et convaincu que la vie sur Terre signifie la mort sur Terre. Alors, le lien qui est établi dans ce film entre enfance et mort est évidemment une opération de sens extrêmement puissante, extrêmement forte, qui touche, je crois, à quelque chose de très profond. Je vais le dire autrement. Dans ce film, on croit aux enfants. Voilà. Les enfants, qui sont les personnages principaux d'une certaine manière du film, les enfants prennent une dimension, acquièrent une dimension, métaphysique, quelque chose de grand apparaît dans cette enfance. Bon, évidemment, le texte de Kafka cité par Despalières à la fin du film, là, le château, tout est vide, etc., etc., ce texte magnifique. L'enfance est le sourcier du chagrin, voilà, une phrase qui n'est pas anodine. Alors, disons que le parti pris de ce film, et c'est ça que je trouve tout à fait fort, touchant, impressionnant, le parti pris de ce film est de nous permettre, nous spectateurs, nous donner la possibilité, nous spectateurs, de croire que les enfants peuvent croire à Disneyland. Voilà. Autrement dit, c'est une opération qui renverse ce qu'on pourrait appeler la doxa socio-critique dans laquelle nous baignons tous, je le disais, temple de la marchandise, temple de l'aliénation, temple du spectacle aliénant. Tout ça, c'est ce que les ethnologues qui sont allés visiter Disneyland pour le compte des grands journaux, je pense à Marc Auger qui a écrit une série d'articles pour Le Monde, bah, ils voient ça, évidemment. Ils voient la marchandise, ils voient l'aliénation, ils voient le spectacle, ils voient la publicité, ils voient le monde marchand s'étaler dans toute sa splendeur. Eh bien, le principe, je trouve, oui, subversif, il faut dire le mot, que Arnaud Despalières met en œuvre, est au contraire celui de nous faire épouser, d'une manière peu rationnelle, le point de vue de l'enfant, c'est-à-dire le point de vue de ceux qui y croient. Voilà, dans ce film, vous avez vu plus d'enfants qui pleurent ou qui ont peur que d'enfants qui rient. Voilà. Et évidemment, c'est ça qui doit se passer, inévitablement, parce que ces marionnettes, ces peluches ne sont pas particulièrement rassurants. Et donc, le cinéma a fait sortir, si j'ose dire, a fait émerger du temple de la marchandise spectaculaire, pour répéter encore cette formule, a fait émerger une dimension profonde, une dimension où... on peut prendre au sérieux la chose au lieu de la dénoncer, ou donc de s'en débarrasser d'une certaine manière sans peine, hein, en considérant que ben voilà, c'est l'aliénation dans toute sa splendeur et on n'en parle plus. Alors ici, au contraire, il me semble que toute l'opération consiste à nous faire adhérer, à nous faire peur, au fond, avec Disneyland, à faire apparaître cet ensemble de jeux d'optique et de danses diverses, faire apparaître cette dimension de la mort qui est évidemment là, mais qui est évidemment refoulée. Voilà. Et là, elle n'est plus refoulée, donc elle ressurgit. Alors ça, c'est très, je trouve, très fort. Au fond, la question qui est celle du cinéma, c'est comment amener les spectateurs à croire à ce qu'ils voient, alors que ce qu'ils voient n'est plus réaliste, ne ressemble plus au monde tel qu'il est. Et je prends appui sur une séquence que je trouve probablement la plus émouvante ou la plus belle de ce film, c'est la séquence des peluches qui s'appelle « Les pauvres êtres », là, où nous voyons ces peluches décrites, avec attention, avec soin, de manière critique, sans complaisance, décrites comme des êtres, précisément, les êtres du renoncement et de l'abnégation, ceux qui ne parlent pas et qui ne se révoltent pas, eh bien, il me semble que nous y croyons, c'est-à-dire qu'à un certain moment, nous constituons ces peluches comme des êtres, tout simplement. Et donc, nous sommes dans cette opération de croyance qui caractérise une fois de plus la place du spectateur dans l'opération cinématographique, ben, croire que les fantaisies, les fatrasies, les fantasmes, les artifices qui sont sur l'écran touchent à quelque chose de vrai, hein, et apportent avec eux une réalité. Alors voilà toute l'opération que je trouve impressionnante. Bon, par ailleurs, ce film est très beau, mais par ailleurs, prenons un exemple encore, et puis j'arrêterai là. L'exemple de la grande parade, évidemment, on a là un récit magnifique, celui de la fillette aveugle qui va la voir, cette parade, mieux que les voyants. Or, les voyants, ce sont nous. C'est nous qui sommes en train de la regarder, cette grande parade. Elle est d'ailleurs magnifiquement filmée, hein, par Arnaud. Il y a un éblouissement de forme, de mouvement, de raccord, de couleur. Et d'une certaine façon, du point de vue du spectaculaire, nous sommes comblés. Et au même moment, ça se creuse par le fait que nous ne voyons que, si j'ose dire, la part la plus superficielle de ce qu'il y a à voir, parce que la fillette aveugle, elle voit autrement. Et elle voit de cette grande parade quelque chose que nous ne pouvons pas voir, précisément. Et pour elle, dit le texte très beau, pour elle, bah, c'est plus beau, évidemment, que si elle avait la vue. Alors voilà, on voit bien comment les soustractions qui sont opérées par le film, j'ai parlé du son, j'ai parlé des images qui sautent, là on peut parler de la vue, par exemple, qui est soustraite à un moment, toute une série d'opérations de ce genre, bah, évidemment, à la fois déplace et même, je dirais, transforme radicalement la réalité référentielle de Disneyland telle qu'on le verrait avec des yeux de visiteurs, et donc en font autre chose, en font du cinéma, mais aussi, évidemment, nous mettent dans une position où nous sommes amenés à questionner précisément la croyance, à questionner le regard, à questionner la vue. Donc l'opération, c'est de mettre le spectateur en alerte et de lui donner la sensation que quelque chose est en train de basculer. Alors beaucoup de moments du film sont des moments de basculement. On peut citer la séquence très belle aussi de la transformation de Mickey marionnette en Mickey souris, où, vous l'avez remarqué, la voix du narrateur change au fur et à mesure que cette histoire est racontée, et ça devient une voix d'enfant, hein, tout simplement. Donc on part d'une voix d'adulte et on arrive à une voix d'enfant, et le narrateur finit par dire, ben voilà, j'ai changé, quelque chose a changé pour moi, je commence à m'adapter à Disneyland et je deviens moi-même un habitant, hein, de ce lieu. Alors, comment habiter, hein, c'est la question qui se pose, comment habiter l'inhabitable, hein, c'est ce que nous rejetons et qui, de toute façon, nous rejette, c'est-à-dire, une fois de plus, ce haut lieu de l'aliénation et du spectacle marchand, comment l'habiter quand même? Alors, l'habiter quand même, ça veut dire que, oui, en effet, le monde est encore possible s'il est retravaillé par le cinéma. Si le cinéma rejoue le monde, alors quelque chose redevient possible qui s'appelle la croyance, qui s'appelle l'émotion, qui s'appelle le regard, qui s'appelle l'écoute. Voilà, c'est comme ça que je conclurai ce parcours rapide à travers ce film. Et je vous invite à voir maintenant le film de Claudio et on reparlera bien sûr après. Bien, voilà. On a une méditation qui tourne, hein, elle est circulaire, elle tourne autour de l'image, bien sûr, les noms, le père, et je dirais quelque chose à l'image s'ajoute, qui n'est pas rien, c'est ce que précisément l'image n'a pas, c'est le toucher, hein. Voilà un film qui parle des images et qui nous montre principalement un doigt ou des mains, voire des pieds, qui touchent. Bon, alors c'est à la fois le signe que nous sommes invités à réfléchir au fond, non pas à la vanité des images, ce serait trop dire, mais à leur fragilité, à leur le caractère insatisfaisant, hein, défaillant, le défaut, hein, intrinsèque aux images. C'est une question qui touche au cœur du cinéma, au cœur des représentations qui passent par des images et des sons. On sait bien, on devrait bien savoir en tout cas, que les images sont extrêmement ambiguës, ambivalentes, fragiles, qu'à elles seules, elles ne constituent pas, si j'ose dire, une pierre sur laquelle on puisse s'appuyer. Elles ne sont pas un socle solide. Ce film met en évidence l'extrême labilité des images, leur caractère transitoire. Hein. On passe d'une image standard, si j'ose dire, à une image sur un écran de téléphone. Cette image elle-même est agrandie, elle est pixelisée. Voilà, quelque chose là d'une instabilité se manifeste du côté des images. Bon, ça a du sens. Hein. Ça touche quelque chose, je crois, qui est tout à fait juste. C'est au fond une pétition de principe dont il faudrait interroger les soubassements religieux qui nous fait croire aux images. Voilà, il y a quelque chose là qu'il faut questionner. Et ce film est évidemment un questionnement sans fin, après, je dirais, la forme de ce questionnement. Donc, comme dans le film de Despalières, et c'est un point qui est commun aux deux films, je dirais, insatisfaction ou défiance ou crédit limité accordé aux images, considérées comme insuffisantes. Voilà. Alors évidemment, c'est beaucoup plus clair dans le film de Pacienza, puisque c'est le motif même du film. Il manque quelque chose aux images. Alors, nous savons, en réfléchissant un instant à ce qu'est une image cinématographique, ce qu'est un plan. La question est posée à un moment, hein, qu'est-ce qu'un plan de cinéma? Bon, il est certain qu'une direction a été choisie au tout début de la réflexion sur le cinéma, qui était de parler d'image, précisément. On aurait dû, me semble-t-il, davantage parler de durée, de temps. D'ailleurs, dans le langage technique, vous le savez, on dit un plan de, je sais pas, 10 secondes, 1 minute, voire 5 minutes, voire plus. Bien. Ce qui caractérise l'image cinématographique, c'est qu'elle dure. Elle n'a pas d'autre caractéristique que celle-là. Cette durée est une durée déterminée, c'est-à-dire que le cinéaste ou le monteur fixe une durée à une suite d'images. Vous savez que les images cinématographiques sont composées d'une succession de photos qu'on appelle photogrammes, que ces photos, comme toutes les photos, sont particulièrement inanimées, qu'elles sont des images fixes, et que c'est seulement la mise en mouvement de cette bande de photogrammes par un projecteur ou par le mécanisme de la caméra qui assure un mouvement. Le mouvement ne vient pas des images. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le départ, dès la naissance du cinéma, quelque chose creuse l'image. L'image n'est pas pleine. Puisque, d'abord, elle est insuffisante au sens où il faut une série d'images pour qu'il y ait un plan. Il faut une durée, donc, une durée déterminée, un nombre déterminé de photogrammes pour qu'on puisse parler de plan de cinéma. Donc, à ce que nous appelons image, il manque la durée, toujours. Voilà. Et repenser l'image dans la durée, alors du coup, c'est étayer son extrême fragilité. Parce que, bien sûr, vous le comprenez, entre un photogramme et ses deux voisins, celui qui vient avant et celui qui vient après, du temps s'est écoulé, tout simplement. Donc il n'y a pas deux photogrammes qui soient identiques, même s'ils ont l'air de se ressembler, ils le font, ils se ressemblent effectivement, ils sont quand même différents. Entre un photogramme pris au 50e de seconde et un autre photogramme pris au 50e de seconde, s'est écoulé une fraction de temps, une fraction de seconde, qui fait que ces deux photogrammes sont différents. Alors évidemment, on ne le voit pas dans la projection d'un film sur un écran, et pourtant c'est là. On ne le voit pas, et pourtant c'est là. C'est-à-dire que, imaginons un plan fixe, comme il y en a quelques-uns dans ce film, ce plan fixe est fait d'une succession de discontinuités. Et par conséquent, l'impression que nous avons d'un plan fixe qui ne bouge pas, où rien ne bouge, où tout est figé, alors le plan de la mort, par exemple, cette impression est trompeuse. C'est un leurre que nous voyons, puisque en réalité, se succèdent un certain nombre de photogrammes, et non seulement ces photogrammes se succèdent, mais deux choses, ils sont tous différents les uns des autres, du temps à passer entre le photogramme 1, le photogramme 2, le photogramme 3, etc. etc. Et chacun de ces photogrammes est séparé de ses voisins par une absence d'image. Donc au cœur du plan cinématographique réside un vide, ce qu'on appelle interimage, cette petite ligne noire. Si vous avez vu déjà un bout de pellicule, vous savez de quoi je parle, cette petite ligne noire qui sépare deux photogrammes. Cette ligne noire, c'est l'absence d'image. Alors évidemment, elle est très mince, cette ligne. Elle est presque... non, elle n'est pas invisible, elle est très très étroite. Mais elle est là, et elle est là 24 fois ou 25 fois par seconde, elle est là tout le temps, et nous ne la voyons pas. Et donc, dans le mécanisme même, dans l'organe même du cinéma, s'inscrit cette absence d'image. Voilà, donc c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles ce qu'on appelle image cinématographique porte en elle, dès l'origine, dès sa naissance, cette incomplétude, cette défaillance intrinsèque, si j'ose dire, qui fait que elle n'est pas le reflet ou l'identique ou l'analogone du plein du monde, si tant est que le monde visible soit plein. Voilà, à supposer qu'il soit plein, ce qui est loin d'être prouvé, l'image qui en est donnée, elle, c'est sûr, n'est pas pleine. Voilà, ça, nous le savons. Alors bien sûr, cette opération de discontinuité, ces ruptures successives qui caractérisent la suite des photogrammes dans un plan cinématographique, nous les dénions. Le spectateur ne les voit pas. Alors, il peut le savoir, puisqu'on a tous vu un bout de pellicule, on en a peut-être touché, on a peut-être filmé avec. En tout cas, c'est un objet qui est relativement familier. On n'est pas là dans quelque chose de totalement étranger à notre culture. Et néanmoins, bien que nous sachions parfaitement qu'un plan est fait d'une suite de photogrammes immobiles d'une part, discontinues d'autre part et séparés les uns des autres par des bandes noires, bien que nous sachions tout cela, ben, nous voyons quelque chose qui est de l'ordre du plein et du lié et du continu. Hein. On revient là sur la thématique que j'ai développée tout à l'heure à propos du film de Despalières. Voilà. Donc ce que ce film nous met en avant, ben, c'est le caractère donc insuffisant ou insatisfaisant ou incomplet, non définitif de l'image cinématographique. Et une fois de plus, je le redis, on est même en discussion avec d'autres. Je pense à Marie-Josée Monzin sur ce point. Moi, j'essaye de ne pas parler d'image. On en parle forcément. C'est difficile de ne pas en parler. Néanmoins, c'est du temps que je mets en avant. Et donc, ce temps nous dit aussi quoi ? Il nous dit que, au fond, rien n'est fixé dans un plan cinématographique. Rien n'est figé. La pierre que je filme. Et son image est faite d'une succession d'images au pluriel qui sont toutes différentes. Donc cette pierre qui a l'air d'être posée là et d'être unique, la question de faire une image unique, hein, cette question est posée par Pacienza. Ben, c'est une question c'est sans réponse, au sens où il n'y a pas d'image unique. Il n'y a que des images différentes d'une même chose. Et donc, l'objet le plus, l'en soi le plus complet au cinéma est émietté. Voilà. Et il faut partir de là pour comprendre ce qui se passe dans l'opération cinématographique. Alors, que fait Pacienza ? Ben, il tente de remédier, au fond, hein, à cette lacune fondamentale de l'image cinématographique. En lui adjoignant ce qu'elle n'a pas. Alors, vous savez que la place du spectateur de cinéma se définit par la mise en avant de deux fonctions principales, le regard et l'écoute, et au contraire, la mise au placard, si j'ose dire, du reste, c'est-à-dire la tactilité, l'olfaction, le goût, hein, toutes ces choses-là ne sont pas actives, ou fort peu actives, pendant la séance de cinéma, puisque, au fond, ce sont les deux sens convoqués par la représentation audiovisuelle qui sont sollicités, qui sont actifs. Et les autres, sont d'une certaine manière inutiles et donc d'une certaine façon abolies. Bien sûr que la question est plus retorse que ça, puisque bien sûr que quand nous voyons avec nos yeux un objet quelconque, un tronc d'arbre par exemple, il présente une apparence de relief. Je rappelle que le relief au cinéma est une illusion aussi, bien sûr, parce que l'écran est plat et que donc tous les objets qui nous paraissent en relief ne le sont pas plus que ça, hein, bien sûr. C'est une illusion. Et donc, évidemment, nous pouvons, à travers le regard, évoquer, métaphoriser, rassembler des sensations qui viendraient des autres fonctions sensorielles qui sont les nôtres. Alors c'est un petit peu le jeu auquel se livre ici Pacienza, enfin le jeu, c'est un jeu cruel. Bon, quand il regarde et puis qu'il touche, qu'il frotte sa main sur le tronc d'un arbre et que des traces d'écorce, etc., y apparaissent. Donc voilà. Ce qui est dit là, c'est quoi ? C'est que d'une certaine manière, à travers la vue, quelque chose reste préservé chez le spectateur. Quand on va toucher, alors oui, il y a un frottement, si j'ose dire, de corps à corps ou de matière à corps qui laisse des traces. Voilà. Alors, les traces laissées par l'image existent sans aucun doute, mais elles sont encore plus évanescentes que les images le sont elles-mêmes. Et donc, l'idée qui parcourt tout ce film et que je trouve très troublante, parce que ça nous invite à un voyage hors de notre fréquentation habituelle du cinéma, un voyage vers ce que le cinéma n'est pas, ce qu'on pourrait appeler une frontière ou une limite du cinéma, cette frontière tactile, enfin, le terme technique, c'est haptique, hein. Ou brusquement, pour voir, il faudrait toucher. Quoi. Je rappelle que ce thème est un thème de l'Évangile, et qu'il y a eu un débat sur ça. Hein. Qu'au fond, la preuve par le voir ou la preuve par l'image est affectée d'un doute. Et que pour que certitude y ait, il faudrait qu'il y ait contact corporel. Hein. Le toucher révèle quelque chose que la vue ne révèle pas suffisamment. Alors c'est cette problématique qui est variée de mille manières dans le film et qui nous trouble beaucoup, me trouble beaucoup en tout cas, puisque ça revient au fond à inscrire à l'intérieur même d'une image cinématographique par ailleurs extrêmement forte, presque toujours très très belle, son manque, hein, c'est-à-dire ce qu'elle ne veut pas donner, le fait qu'elle n'est pas un organe tactile, elle ne procède pas d'un organe tactile. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose est aussi très, très troublante. Bon, c'est évidemment la hantise de la mort dans ce film. Hein. La mort est extrêmement présente de manière explicite dans le texte dit par Pacienza, mais elle est présente aussi à tout moment. Hein. Bon, bien sûr, on va développer quelque chose autour de l'idée du corps mort du père. Bon, vous avez vu cette scène tout à fait saisissante, je pense une des rares, voire même unique dans l'histoire du cinéma, où le fils est à côté du cadavre de son père. C'est une chose que le cinéma ne filme pas, puisque vous le savez, dans l'histoire du cinéma, et je ne parle pas des actualités de guerre, dans l'histoire du cinéma, la mort est simulée. Hein, voilà, la mort est simulée. Il y a un nombre infini de morts depuis le premier film jusqu'à aujourd'hui, mais de tous ces morts, on peut dire qu'ils ne sont pas morts au cinéma, qu'ils ont fait semblant de mourir au cinéma et qu'ils sont morts après, dans leur lit ou ailleurs, d'une vraie mort. Donc, le fait que au cinéma, la mort soit réversible. Hein, on sait bien que l'acteur qui a reçu une balle dans la tête va se relever et qui fera une deuxième prise. Tous les spectateurs savent ça. Hein. Tous les spectateurs, de ce point de vue-là, sont complices de la fiction qui veut qu'on désire, on demande, on accepte et on désire que la mort soit simulée. Et quand la mort n'est pas simulée, quelque chose de l'ordre d'une transgression se réalise. Pourquoi une transgression? Parce que précisément, le cinéma a virtualisé la mort. Voilà. Je dis et j'ai dit ici même et je redis que c'est une de ses raisons d'être. Évidemment, la naissance, l'invention du cinéma, le désir de cinéma, les mythes qui ont conduit à ce que le cinéma existe, s'adressaient... viser un dépassement de la mort, viser une relativisation de la mort. L'image du père vivant, pour en rester là encore, survit à la mort du père réel. Voilà. Donc cette image qu'on a caractérisée tout à l'heure comme insuffisante, défaillante, trouée, incapable d'accomplir pleinement sa mission de représentation dans la mesure où elle est minée intérieurement par l'absence d'image et que c'est la dialectique des deux qui joue constamment, eh bien voilà que, en revanche, elle est toute puissante quand il s'agit de la mort, puisque précisément, l'image maintient le corps vivant alors que le corps référentiel est mort. Voilà. Alors, c'est cette dualité, si vous voulez, ou duplicité du cinéma qu'il faut essayer d'articuler, puisque d'un côté l'image n'y arrive pas, et de l'autre côté elle y arrive très bien. Elle arrive très bien à ressusciter les morts, ou en tout cas à les empêcher de mourir définitivement, à leur destiner une survie d'écran, une survie visuelle. Bon, alors cette question est évidemment travaillé par le film d'une manière extrêmement intéressante, puisque l'image du père, l'image de la mère sont là, elles sont là en positif, en négatif, de toutes sortes de manières, mais en fait, ce qui est là d'abord, c'est la parole du père. Certes, Claudio Pacienza dit lui-même « tu dis », mais qui lui dit « tu dis » ? C'est forcément le père, c'est forcément le père. Il ne peut pas y avoir d'autre « tu » que le père, le tu dont il est question, le sujet de l'énonciation, est inévitablement le père. La parole que le fils profère d'un bout à l'autre de ce film, et sur tous les tons et de toutes les bannières, cette parole est la parole du père. Le père met en somme au défi le fils de faire quelque chose de nouveau, invente quelque chose, lui dit-il. Bon, c'est là, probablement le commandement le plus impossible à satisfaire, le plus terrible. Je pense que même l'être divin n'a pas demandé à Adam d'inventer quelque chose. Voilà. Donc il y a quelque... là, on est dans une dimension très, très violente. Mais voilà, ce père ne cesse, à travers la bouche de son fils, qui répète le « tu dis, tu dis, tu dis », ne cesse alors, de mettre en doute la puissance ou la stabilité des images, de vouloir les compléter avec le toucher, avec l'olfaction. Il y a ces moments où bon, voilà, on sent... vous avez vu cette chose tout à fait étrange. Il y a un sac en plastique noir, n'est-ce pas, qui est posé sur la table de la cuisine. Et pendant une fraction de seconde, je me dis... c'est le sanglier ou c'est quelque chose du sanglier. Et puis, Paciencia en sort des vêtements, n'est-ce pas? Et il respire ce qu'il y a dans ce sac. Il respire l'odeur de son père. Voilà. Alors, bien sûr, on est dans une... Il le dit, le mot rituel est prononcé à de nombreuses reprises. On est dans un rituel qui s'approcherait de la nécrophilie ou en tout cas de l'ensevelissement symbolique du corps mort du père, mais ça va très loin, hein, ça va très loin, puisque bon, il y a cette scène, je trouve, tout aussi effrayante d'une certaine manière, où le fils glisse ses pieds qu'on a vus nus toucher la terre, il les glisse dans les pantoufles du père, il prend le pantalon du père, il prend la chemise du père et il sort dans la rue jusqu'à aller se faire reconnaître comme étant son père par un ami ou un voisin qui passe par là. Bon, cette scène est ellipsée, hein, donc ce qu'elle pourrait avoir de, je dirais presque de comique ou de grotesque, est escamoté habilement par les ellipses, puisque quand l'ami dit Carlo, il n'y a plus personne dans l'image, et celui qui dit Carlo n'est plus là non plus. Donc on est dans une citation, en somme, et non pas dans une scène véritablement affrontée par des acteurs qui incarneraient les personnages. Bref, tout ça pour dire que quelle est la demande du père, ressassée par le fils? Ben, la demande du père, c'est non pas seulement d'interroger les images ou de les mettre en doute ou de jouer ou de les déjouer, de les rejouer à travers, par exemple, le toucher. La demande du père est beaucoup plus importante. C'est donne un nom aux choses. Voilà. Alors là on touche à quelque chose qui me semble décisif. Bien sûr... le père, c'est le nom du père. Lacan l'a dit bien avant moi. Le père, c'est le nom. C'est le nom qu'on porte, n'est-ce pas? Le nom du père, c'est ce qui nous identifie, c'est ce qui nous donne un nom. Et ce nom, cette filiation par rapport au nom du père, ben c'est aussi probablement, en tout cas, c'est ce que le film nous invite à penser, ben c'est ce qui permet de nommer le monde, de nommer les différents aspects du monde. Et donc l'image apparaît insuffisante, non seulement pour les raisons que j'ai dites, non seulement parce qu'elle est mise en doute de façon ressassante par le réalisateur lui-même, mais aussi parce que les noms ne sont pas là pour que ces images se fixe d'une manière ou d'une autre, signifie tout simplement, prenne sens. Voilà. Alors cette quête sans fin et sans résultat aussi, il faut le dire, du nom à travers le film, en liaison ou en articulation avec le statut de l'image, voilà, je trouve qu'il ouvre un horizon de sens pour nous aujourd'hui. Pourquoi? J'ai dit... rapidement en introduction que nous étions dans un moment où en gros le spectacle recouvre le monde, voire l'étouffe, ou en tout cas le transforme, le met à sa forme, le formate au fond, hein, voilà, c'est le terme qui conviendrait. Et comment frayer un chemin d'image et de son, comment frayer une œuvre qui ne soit pas elle-même prise dans les anneaux de ce serpent spectaculaire qui étouffe toute chose. Eh bien, oui, probablement à travers les noms. Probablement que du côté des noms, la bataille est encore à mener. En tout cas, c'est ce que je comprends dans ce film. Puis je vous donnerai la parole tout à l'heure et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Mais ce que j'entends, moi, de la bouche du père telle que le fils la restitue, ce que j'entends, c'est qu'il faut se battre autour des noms. Hein. et que cette question est vraiment centrale, parce que, évidemment, du côté des images, les images en tant que telles, en tout cas le film le dit et le redit, les images en tant que telles n'ont pas la force de résister du côté des noms, du côté des signifiants, si vous voulez, des signifiants sonores, des signifiants verbaux, des signifiants scripturaux. Alors oui, quelque chose peut être capable de résister à cette fuite, au fond, hein, cette fuite des images. Il y a ce plan très beau, très, très surprenant, il y a beaucoup de plans surprenants dans ce film, il y a ce plan très surprenant où le trucage du sanglier, là, comme en néon sur le sol, et puis on s'aperçoit que ce truc est enroulé, et finalement c'est un fil blanc, une pelote de fil que Paciencia tient dans sa main. Alors voilà, ça nous dit quoi? Ça nous dit l'extrême fragilité, l'extrême labilité de ce qui fait image, en l'occurrence cette forme, hein, un dessin, si vous voulez, un dessin comparable peut-être aux gravures rupestres, enfin qui en tout cas les évoque. D'ailleurs, les images produites par le fusil chronophotographique évoquent aussi, bien sûr, les gravures rupestres, ces différentes phases du mouvement du même animal. C'est ce que Étienne Jules Marais avait fabriqué avec son fusil chronophotographique. Donc voilà, l'image fuit, si j'ose dire. Quelque chose fuit dans l'image. L'image elle-même est fuite. Je le rappelle, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, d'une autre manière. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ambiguïté dans tout plan de cinéma? Pourquoi aucun plan de cinéma n'est à même d'affirmer péremptoirement et définitivement une seule chose? Mais précisément parce que le temps y passe. Voilà. Précisément parce que le temps s'y inscrit. Et que entre le premier moment et le dernier moment de ce plan, ça a changé. Alors voilà, l'ambiguïté est intrinsèque et complètement incluse dans l'opération cinématographique. Si le temps passe, ça veut dire que le monde change, ça veut dire que le sens change. Même si c'est un plan de 10 secondes, en 10 secondes, quelque chose aura changé. La place du monde s'est décalée de 10 secondes. Et le cinéma enregistre ça, enregistre ce passage du monde dans le temps. Je le disais les autres fois, bon, la caméra est une horloge, c'est pas un outil pour voir ou pour fabriquer de l'image, c'est un outil pour compter la durée. Hein. Toutes les roues, tous les mécanismes qui composent une caméra, de la caméra mécanique du cinématographe Lumière jusqu'aux caméras électroniques d'aujourd'hui, sont des compteurs de temps. La caméra ne marche que comme ça. Voilà. Le nombre de photogrammes par seconde est l'unité de base. On ne peut pas... Et voilà. S'il n'y a pas ça, qu'y a-t-il ? Hein, c'est un peu la question qu'avait à résoudre les... Bon, Marais, par exemple, avait cette question à résoudre. Si on met une bande de papier sensible, par exemple papier photographique, et qu'il n'y a pas de césure, de coupure, de cassure, d'interruption, ben on a une sorte de ligne continue. L'image du monde, c'est une ligne de fuite. Et pour que ça fasse image... Il faut que ça soit coupé. Voilà. Donc cette coupure, cette saccade dont j'ai parlé tout à l'heure à propos du film des Palières, elle est absolument centrale. Sans elle, il n'y a pas d'image cinématographique. Donc si on comprend et si on accepte ce principe que l'image est faite de coupes, hein, alors du coup, évidemment, on comprend bien que cette image est absolument une traduction ou une altération ou une transcription du monde dans un langage qui n'est plus celui du monde. Et c'est pourquoi les plans cinématographiques ne peuvent pas avoir une valeur objective. Ils ont une valeur qui reste celle d'une traduction. Cela dit, soyons simples, tous les systèmes de nomination que nous avons sont des traductions du monde dans un code 2D. Hein, et de ce point de vue-là, l'image n'est ni le seul ni forcément le meilleur. Voilà, donc ces questions sont très actives dans le film, vous l'avez compris. Bon, j'aurais du mal à développer davantage, parce que je crois que la force de ce film est en partie dans le fait que ces raccords ou ces ajustements ou ces articulations entre la mort, le père, l'image, le sens, le nom restent ouverts. Voilà, nous ne sommes pas devant un cours de Yankelevitch, et moi-même d'ailleurs je ne fais pas de cours ici, nous sommes dans une configuration qui est ouverte, où les éléments sont mis en relation les uns avec les autres, mais d'une façon flottante. Cette figure du flottement est très présente dans le film, ne serait-ce que par les changements d'échelle, des images, quand on est sur ce petit carré lumineux au centre de l'écran noir et qu'on passe ensuite sur la taille totale de l'écran, on voit bien que quelque chose s'affirme ou s'inscrit plutôt, quelque chose s'inscrit, bah, oui, d'un flottement de l'image. L'image non cantonnée, non sertie, non assujettie. L'image donc flottante. Voilà. Alors je crois que la force du film est là, c'est de faire apparaître cette configuration, mais de la laisser à l'état de configuration et de ne pas lui donner la forme d'un raisonnement, d'une démonstration, d'une articulation logique. Voilà. De la même manière, et j'en reviens à la scène où Claudio Pacienza s'installe dans la même image que le corps du père, évidemment, comment ne pas voir dans cette obsession de partager la même image l'idée que précisément la vie continue. Moi, je ne peux pas le lire autrement. Ce que je vois, c'est le corps vivant du fils derrière le corps mort du père. Mais évidemment, à chaque moment, je me demande si ce père est vraiment mort. À chaque moment, j'attends un signe, un tressaillement de sourcils, un petit pli au coin de la bouche qui me disent « Non, il fait semblant, il n'est pas si mort que ça ». Alors, je désigne là quoi ? Je désigne la puissance vitale au fond, hein, le vitalisme profond du cinéma qui, même quand il est, comme là, de manière unique dans l'histoire du cinéma, je crois, confronté au corps mort, lui injecte ou lui insuffle ou lui passe une partie de sa dimension vitale, de son énergie vitale, si on veut utiliser ce terme que j'aime pas trop par ailleurs. Donc voilà, la coexistence, partager la même image, c'est partager la vie. Voilà, c'est partager la vie, c'est pas partager la mort. Et donc c'est remettre son père dans la vie du film. C'est comme ça. Donc loin que ce soit un enterrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme le film le dit d'ailleurs à un moment, bah c'est le contraire, c'est une exhumation. Et on transporte le corps mort du père dans un film avec évidemment tout ce qui est lié à la question du cinéma, qui est, d'une manière ou d'une autre, de maintenir en vie ce qui est mort. Voilà. Alors je vous redis, pour conclure, à quel point cette question du passage de l'articulation de la vie et de la mort est absolument centrale dans la théorie du cinéma. On ne peut pas penser le cinéma si on ne pense pas ça. On sait bien, d'une part, de manière empirique ou historique, on sait bien que presque tous les corps de comédiens ou de non-comédiens qui ont été filmés dans l'histoire du cinéma, ben les corps des gens réels sont morts. Et ce que nous voyons, ce sont des fantômes. Bon, cette dimension, je crois que nous l'avons tous. Bon, des fantômes qui ont l'air plus vivants que peut-être leur référent en chair et en os ne l'était. Hein. C'est l'opération que réalise le cinéma. Mais d'autre part, au cœur même du dispositif ou du fabriqué cinématographique, ben vous avez ce passage constant de l'image figée qui, qu'on le veuille ou non, renvoie à la mort, à l'image en mouvement qui, qu'on le veuille ou non, renvoie à la vie. Voilà. Le cinéma, vous le savez, c'est la combinaison de l'analyse du mouvement que produit la caméra fabrique de l'image morte à partir de la vie des corps réels, et évidemment, après l'analyse du mouvement, il y a la synthèse du mouvement que fait le projecteur, il synthétise le mouvement, donc il ramène la vie à ce qui était mort. Bon, j'ai passé à la deuxième séance, je crois, de notre cycle, le magnifique film de Dziga Vertov qui s'appelle « L'homme à la caméra », où ce que je suis en train de vous dire se voit, puisque c'est un film sur le cinéma, et on voit une calèche avec des bourgeoises d'Odessa, tout ça court dans la rue, la caméra est placée sur une voiture qui roule parallèlement à la calèche, etc. Tout ça, c'est la vie et c'est le cinéma à la fois. Et puis, paf, les images se figent. Et donc, on se trouve devant des photogrammes. Alors, ça se fige, ça s'arrête, et on retrouve ces photogrammes où, bah, sur la table de montage, où la femme de Vertov les découpe, et puis les colle. Et quand elle les colle, extraordinairement, ça revit, l'image se remet à bouger. Voilà, donc c'est un jeu à la fois didactique et en même temps profondément théorique que Vertov fait, et qui nous dit que cette opération est sans cesse celle qui se produit dans l'opération cinématographique. Voilà. Et que quand on fait une image arrêtée, quand le film s'arrête, ben évidemment, on retrouve la photographie avec toute la dimension mortifère que les théoriciens ont déjà notée. Par exemple, Roland Barthes qui disait de la photo, cela a été, ça n'est pas la parole qui convient au cinéma. Au cinéma, la parole qui convient, c'est cela est en train d'arriver. Les choses sont en train de naître ou de renaître sous nos yeux, bien que, en effet, nous savons que tout film a été tourné avant, et parfois même très longtemps avant, et que très souvent, les corps qui ont joué dans ce film sont des cadavres. Voilà. Alors, c'est ce jeu avec la vie et la mort qui peut-être à la fois dialectise et donne du sens au questionnement sur les images. Et c'est ça, je crois, que le spectacle ne fait pas. Voilà. Ne peut pas faire. Alors, on l'a dit à propos du film d'Ardo Despalières, le refoulement de la mort, qui est manifeste et patent à Disneyland, mais qui est manifeste et patent dans beaucoup de films de divertissement. Non pas que la mort n'y soit pas, mais elle y est précisément déniée. C'est-à-dire, elle apparaît. On tue énormément de gens, il y a des accidents, les tours s'écroulent, les avions tombent, tout ce que vous voudrez, mais la mort n'est pas là. La simulation de la mort est partout, et la mort nulle part. Alors que là, je crois qu'on a le contraire. On a la vie donnée comme simulacre et la mort donnée comme réalité. Alors c'est un renversement de perspective qui, à mon sens, doit nous faire réfléchir. Je vous propose de prendre la parole.
Bonsoir Jean-Louis. J'ai d'abord une remarque, d'abord juste un petit mot pour souligner ce que tu as dit amplement sur la représentation des morts ou l'immortalité des comédiens. Enfin, il y a une espèce de paradoxe qui fait que Gary Cooper est immortel, pour ne citer que lui, et puis que effectivement le père de Claudio, on s'attend à ce qu'il bouge, on croit qu'il va sciller. Effectivement, c'est étonnant. Bon. Ça, c'est une petite remarque. Deuxième, qui est une remarque et une question. Bon, tu as abondamment commenté l'injonction du texte, le tu que tu attribues au père. Il y a une phrase qui revient, qui est une phrase clé, enfin, qui revient au moins 5-6 fois, c'est « nomme ce qui rend tes images muettes ». Alors moi ça fait plusieurs fois que je vois le film, il y a quelque chose de très troublant dans la précision de la phrase, c'est pas « nomme tes images », ou c'est pas « nomme les images qui sont muettes ou qui resteraient muettes », note ce qui rend tes images muettes. Je voudrais que tu commentes un petit peu ça. Puis j'aurai une autre remarque après.
Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est la mort qui rendait les images muettes. C'est ce que j'ai entendu. La mort du père rend les images muettes. Le monde est désinvesti. Le désir de représenter, de voir, devient quelque chose de pas de macabre, mais enfin d'un peu étonnant et d'un peu étrange, parce que le père n'est plus là. Voilà, la mort du père a vidé la maison. C'est dit trois fois. La maison est vide. Voilà, et il y a toute cette série de plans que je trouve tout à fait étonnant, où on voit Claudio ouvrir la porte, fermer la porte, rentrer, sortir dans une sorte de frénésie comme ça qui est angoissante. Enfin, ce sont des images d'angoisse qui sont là montrées. Donc moi, ce que j'entends, mais je suis sûr qu'il y a d'autres interprétations, parce que comme je le disais tout à l'heure, on a une configuration qui est pleine de trous, qui est ouverte, et où on peut nous glisser Nos interprétations ou nos fantasmes tout à fait à l'aise. Le film n'impose pas, de ce point de vue-là, une lecture, mais laisse ouvert le champ des lectures, ce que je trouve quand même extrêmement important pour un film théorique, un film qui parle du cinéma, un film qui tente de nous expliquer quelque chose. Bon, alors ça reste ouvert. Donc moi, mon interprétation, c'est ce qui rend tes images muettes, c'est que je ne suis plus là. Voilà, nomme ce qui rend, c'est-à-dire nomme-moi, voilà, dis mon nom. Cette question du nom du père, je le répète, est vraiment importante au-delà de ce film. C'est une question forte.
Et puis une autre remarque, une autre réflexion, je passerai la parole après. Quelque chose que tu n'as pas abordé, mais qui ne t'a pas échappé, c'est le plan final de la main et la trace de la main. Et puisque tu as cité Marie-Josée, le plan final renvoie au tout début.
Absolument.
De son ère des films. Ah, oui, oui. Donc tout le développement qu'elle fait sur les peintures rupestres, je résume très, très, très brièvement, et pour ceux qui ne l'ont pas lu et pour te renvoyer la balle. D'une part, c'est le premier dessin, la première approche, la première manifestation qu'on peut appeler d'une œuvre d'art. Et en même temps, puisque ça la met à distance, c'est cette mise à distance qui permet en même temps de l'observer et de la montrer.
Voilà, tu l'as très bien résumé. Donc la main négative ou positive qu'on voit sur les parois des cavernes, et surtout sur les photos qui représentent ces parois, parce qu'on ne va pas souvent dans les cavernes. Bon, cette main, c'est la séparation. Voilà, c'est ce que dit Marie-Josée, et c'est fort juste. Il ne peut y avoir œuvre que s'il y a séparation entre ce qui est fabriqué et le sujet qu'il fabrique. Voilà. Et la main posée sépare définitivement l'œuvre du sujet, et donc quelque chose s'accomplit qui échappe à l'énonciation subjective et qui devient visible par d'autres, etc., qui peut braver le temps, etc., etc. De ce point de vue-là, cette simple image de la main renvoie à toute l'histoire de l'art, y compris cinéma compris. Mais je crois que la lecture qu'on peut faire de ce dernier plan de Claudio est différente, sinon inverse, parce que évidemment, c'est le toucher qui est de nouveau convoqué, hein, et le toucher, c'est pas la séparation. Voilà, disons les choses comme ça. Voilà. Et oui, le toucher, c'est encore le contact. Alors bien sûr que cette main qui a touché se retire une fois que le tracé a été fait des doigts sur la peau, mais néanmoins c'est passé par le contact, donc un thème, je le répète, récurrent dans tout le film. Et par ailleurs, comment ne pas voir dans ce trait blanc, ce liseré blanc qui dessine les doigts de la main, comment ne pas voir justement l'écho de ce liseré blanc qu'a été le sanglier à un moment sur la prairie. Bon, on voit bien que quelque chose joue là autour du dessin, du fil et d'une certaine façon du fragile. Bon. Mais voilà, ces plans ont de la force. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils se trament avec tout le reste du film. Et donc, on pourrait dire, comment définir un plan de cinéma ? Parce qu'il n'est pas seul. Ça suffit comme définition. Il n'est pas seul, il y en a d'autres. Et donc, il entretient avec les autres des relations. Voilà. Alors là, c'est tout à fait vrai pour ce dernier plan du film. Mais on peut dire aussi que le sens qui s'y dépose est un sens non certain, hein, flottant, incertain. Ça peut être ça, ça peut être aussi un tout petit peu autre chose. Et c'est cette indécision qui, je le répète, selon moi, constitue la raison d'être du cinéma, que les choses ne peuvent pas être affirmées une fois pour toutes, précisément parce qu'on est dans un processus temporel où ce qui est le photogramme, on pourrait le dire, le photogramme numéro 1 est défait par le photogramme numéro 2 qui pourtant montre la même chose. Voilà. Alors, c'est la suite des photogrammes peut être comprise ou décrite comme une succession d'instants dont chacun efface le précédent. Vous savez que si nous voyons la synthèse du mouvement sur l'écran, c'est précisément parce que les photogrammes se succèdent de manière rapide, infravisible, et que c'est cette succession qui assure l'inscription de lumière et d'ombre sur l'écran, donc de forme et de traces. Mais cette succession dit quoi ? Elle dit que l'inscription et l'effacement, c'est la même chose. Voilà. Et là aussi, on retrouve d'une autre manière le discours sur au cinéma, mort et vie ont une relation qu'ils n'ont pas, que ces deux entités, mort et vie, n'ont pas dans le monde réel, mais ont au cinéma, où la relation est étroite. Voilà. Alors, inscription-effacement. Inscription-effacement, ça pourrait être une autre des manières de parler du film de Pacienza, puisque c'est tout à fait présent dans son film, et c'est encore une manière de parler du film de Despalières. Ça, je l'ai dit tout à l'heure.
Bonsoir.
Oui, je vous
voulais... Est-ce que le cinéma, le roman ou la fiction en général n'ont pas amené les gens à vivre dans un monde virtuel, presque dans une folie consciente ? Merci.
Ah ben oui, enfin je crois qu'on peut le dire, il y a quelque chose de cet ordre-là, bien sûr, oui. Bon, disons que toute image mentale est virtuelle et que l'humanité n'a pas attendu l'invention du cinéma pour fabriquer des images mentales. C'est au fond penser, rêver, voilà, désirer, c'est produire des images mentales et donc des images par définition virtuelles. On observe que ces images ensuite ne se fixent pas, qu'elles flottent, qu'elles disparaissent, qu'elles sont évanescentes, etc. Voilà. Mais en effet, on peut dire que peu à peu, au cours du XXe siècle, la généralisation du cinéma, et notamment au-delà du cinéma, à travers les télévisions, de ce qu'on pourrait appeler des suites d'images et de sons, hein, des suites audiovisuelles, bah, oui, la généralisation de cela a absolument transformé les sociétés et les êtres qui y vivent. Voilà. Et, alors, j'utiliserai pas le mot de virtuel, là, précisément parce que le virtuel, c'est une puissance de l'esprit. On dit le calcul virtuel, par exemple. Voilà, le virtuel a affaire à la rêverie, au désir, à la possibilité, à l'éventualité. Ça n'est pas le statut de l'image. Bon, l'image, il faut la dire, comme j'ai tenté de le répéter aujourd'hui et les autres fois, il faut la dire traduction dans un autre langage de ce qu'on appelle réalité, mise en scène, mise en écart, mise en doute, mise en crise. Moi, je dis le cinéma met le monde en crise. Oui, il l'affecte d'un manque. Ce manque est toujours là, mais nous ne le voyons jamais, puisque nous en faisons partie nous-mêmes au cinéma, et il est en face de nous, si j'ose dire. Et donc, nous pouvons mieux comprendre comment le monde est affecté d'un manque par l'opération cinématographique. Mais en même temps que ça, on a tout à fait raison de le dire, et je crois que je l'ai écrit quelque part, bah, oui, le cinéma remplace peu à peu le monde. Enfin, l'audiovisuel se substitue. Et on pourrait même aller plus loin et dire qu'une grande partie de ce qui nous arrive aujourd'hui, je pense par exemple à la vie politique en Occident, hein, et peut-être même ailleurs, d'ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas en Occident, ça je sais, bah, la vie politique, la politique spectacle, comme on dit de manière un peu grossière, qu'on consiste à substituer un système de représentation, des logiques de représentation, à des logiques d'action ou à des logiques d'intervention directe. D'une certaine manière, nous allons en effet vers une société où les citoyens auront de moins en moins la possibilité d'agir, et tout simplement parce qu'ils sont agis par des représentations, voilà, et qu'ils vont réagir, si j'ose dire, à des représentations et non plus agir en tant que tels. Voilà. Il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là et qui est évidemment très inquiétant. Hein, je ne suis pas le premier à le dire. Alors simplement, ce que j'essaye de montrer, et c'est pourquoi j'ai proposé à Catherine de faire cette série de rencontres autour du documentaire. Je crois que la réponse à cette crise générale des représentations qui affecte aussi la place du citoyen et ses possibilités d'agir, donc la dimension politique de notre être ensemble, je pense que c'est de l'intérieur même du cinéma que ça se travaille, et qu'éventuellement s'élabore ici et là, dans ces films qu'on a vus ici, ceux de ce soir et d'autres, s'élabore des contre-mesures, si j'ose dire, des gestes ou des actes ou des positions qui tentent, le mot résistance est un peu facile, il a été utilisé hyper abondamment, bon, voilà, qui tentent de ne pas jouer le jeu comme l'ensemble des représentations, des médias, des télévisions le jouent. Voilà, sortir de ce jeu-là et en proposer un autre. Pour moi, les films qu'on a vus ce soir sont des films qui, bien que passant par des images et des sons, donc les outils ou les armes du spectacle, sont anti-spectaculaires, au sens où ils mettent en cause précisément l'unité, la fluidité, la continuité et la plénitude du spectacle. Dès que, dans l'opération cinématographique, on dirige pas seulement le regard, mais l'ensemble des perceptions du spectateur vers ce qui n'est pas là, qui manque, qui est troué, qui fait défaut, qui pose problème, qui met en crise, alors on fait une opération anti-spectaculaire. Voilà. Parce que le spectacle, j'ai eu l'occasion de le dire, le spectacle, c'est le plein. Voilà. C'est comme si tout était là. Voilà, comme si tout était là. Il n'y a pas de trou. Il n'y a, parce que le trou, c'est l'angoisse. Le trou, c'est la mort. Le trou, c'est ce qui nous mine. Et c'est insupportable, le spectacle. Voilà. Donc, le spectacle peut le simuler, mais ne peut pas l'intégrer ou l'incorporer ou le jouer vraiment. Voilà, c'est ça qui se... Alors, depuis très longtemps, j'intitule un de mes... appelons ça de mes cours, peu importe. J'intitule ça « Cinéma contre spectacle ». Voilà. Pour moi, il y a effectivement deux directions, deux notions très différentes. Alors, c'est vrai que le cinéma est fait aussi de spectacle, mais du côté du spectacle, je dis qu'on est dans une logique additive. Hein, c'est toujours plus... Encore plus de lumière, plus de mort, plus d'explosion, de mort toujours entre guillemets, plus d'explosion, plus de fric aussi d'ailleurs, tout ça va ensemble. Hein. Et du côté du cinéma, ben, je dirais que c'est une logique soustractive, c'est-à-dire que on part du principe, là aussi pardon de me répéter, mais j'ai cité cette phrase de Bazin au moins 50 fois, bon, le cadre est un cache. Quand on dit le cadre est un cache, ça veut dire que toute image cinématographique, tout plan, tout cadre, ben, occulte une partie du visible. Voilà. Et si ça occulte une partie du visible, ça n'est plus du côté du spectacle, puisque le spectacle fait comme si n'occultait pas une partie du visible. Et donc nous met dans une position leurrante, au sens vraiment premier du mot, nous fait croire que tout est là, voilà, et qu'il ne manque rien. Eh bien non, nous savons dans notre expérience de la vie, dans nos relations, dans notre travail, dans tout ce qui fait que nous sommes des êtres parlant en ce monde, ben nous savons que c'est ce qui manque qui compte, voilà, et non pas ce qui se donne pour étant là et donc dénie ou fait comme si il n'y avait pas de manque. Voilà. Donc voilà, le cinéma, c'est cette soustraction. C'est accepter l'idée que tout n'est pas là. Tout n'est pas là. Comme dit, pour citer encore une fois Lacan, on est dans le patou. On n'est pas dans le tout. Alors le patou, ben, le patou, c'est la porte ouverte. Oui, j'adore cette phrase. Ça prouve que Lacan était un grand humoriste, à la manière de Groucho Marx. Le patou, ça veut dire que y a des portes, des fenêtres, des issues de secours, des lignes de fuite, qu'on n'est pas enfermé dans quelque chose, qu'il y a encore du jeu, hein, comme on dit, de pièces qui sont mal ajustées, et que donc l'intervention de l'être parlant n'est pas absurde. Si on est du côté du tout, là, il n'y a plus grand-chose à faire, puisque tout est déjà là. Alors, c'est évidemment les fanatismes religieux qui portent l'hypostase du tout. Et nous sommes dans le patou, c'est-à-dire nous pensons que nous sommes encore des êtres capables d'agir sur le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.